disais, nous allons parler à Mélanie Bergeron, qui est courtière immobilière. Bonjour Mélanie Bergeron.
Bonjour Jean-Luc.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Je vous parle en direct des îles de la Madeleine, Jean-Luc, où le marché immobilier est en feu aussi.
En feu, mais il n'y a rien à acheter.
C'est ça, vous avez tout compris. Beaucoup d'acheteurs qui veulent s'établir ici, mais c'est ça le défi. Hein. On reçoit beaucoup d'appels de gens qui disent, ben écoute, si tu vois un terrain, si tu vois une maison, mais écoutez, ce genre d'appel-là, on l'a beaucoup, mais malheureusement, il y a à peu près 14 propriétés à vendre en ce moment aux Îles-de-la-Madeleine, et là-dessus, il y en a 6 qui ont des promesses d'achat acceptées. Donc, c'est tout un défi.
Dites-moi, c'est le cas un peu partout à la grandeur du territoire québécois. Moi, je suis je m'amuse à courir sur les sites immobiliers pour le plaisir. Et les inventaires sont chagrins, là, ça rapetisse beaucoup.
Ils sont au plus bas, je vous dirais, en ce moment, Jean-Luc. Puis on trouvait que cet hiver, il n'y avait pas beaucoup d'inventaires, mais je vous dirais que cet été, c'est encore pire. Il y a encore des acheteurs au rendez-vous. Par contre, quand il y a une propriété, il y a moins d'acheteurs dans le décor en ce moment. Les gens ont la tête ailleurs. Hein. Depuis le déconfinement, depuis que les gens ont le droit de se voir en famille et tout ça, on dirait qu'il y a un petit peu d'acheteurs là qui ont remis leur projet à plus tard. Mais malgré tout, quand il y a une propriété qui sort sur le marché et que c'est une propriété intéressante dans un secteur intéressant, j'ai un exemple. Moi, on a une propriété en marché. Là, on a eu 50 visites en un week-end tout récemment. Alors, c'est encore très actif parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire et c'est ça qui fait l'offre et la demande, c'est ça qui fait monter les prix et c'est ça qui crée le phénomène de la surenchère aussi qu'on voit depuis plusieurs mois.
Est-ce que 50 visites en un week-end, c'est pas plutôt de la curiosité muséale que de l'intention d'achat?
Moi, je vous dirais que pour notre part, et comme c'est le cas de beaucoup de courtiers immobiliers qui veulent pas non plus travailler pour rien avec des gens là qui sont seulement curieux, on s'informe sur la capacité d'acheter des gens, s'ils ont une préqualification hypothécaire, c'est important. On essaie de les connaître aussi avant de les faire visiter. On leur présente la déclaration du vendeur. S'ils ont des points qu'ils aiment moins sur la propriété, ben on élimine quand même certaines personnes. Donc, malgré tout, il en reste beaucoup. Il reste beaucoup de visites malgré le tri qu'on peut faire au départ. Et si les gens n'ont pas le moyen d'acheter la propriété, on ne fera pas une visite. Et avec les mesures sanitaires qui sont en place depuis bien longtemps déjà, un peu trop longtemps, mais on est encore là-dedans. On peut pas faire de visites libres. On doit quand même organiser les visites sur rendez-vous seulement. Donc, les visites de curiosité, là, c'est pas mal du passé depuis quelques mois, effectivement.
Bon, parlons-en de ce marché en folie où il y a de l'effervescence, où on veut acheter. Mais c'est dangereux. C'est une période qui est dangereuse pour les acheteurs parce que il y en a plusieurs qui, et même pour les vendeurs, qui sont prêts à acheter sans garantie légale, qui sont prêts à acheter sans inspection, qui sont prêts à acheter sans condition quelconque. Et là, ben, on s'ouvre peut-être une boîte de problèmes, là.
Oui, et je vais revenir sur la garantie légale, Jean-Luc, mais un nouveau phénomène qu'on a constaté cet été, c'est que les gens qui ont acheté sans inspection, cet hiver, par exemple, et qui ont pris possession de leur maison début juillet ou bon à la fin du printemps, ils ont fait faire une inspection post-achat. Et ça, on n'avait jamais vu ça. C'est très, très rare qu'on a pu voir ça, mais des gens quand même qui avaient acheté sans inspection et qui disent « Bon, ben là, j'ai ma maison, je veux voir qu'est-ce que j'ai à faire dedans. » Alors que normalement, on fait l'inverse. Et il y en a qui se sont retrouvés avec des surprises majeures, exemple de la moisissure dans des murs, des fissures importantes. Bon, des fissures, ça se répare quand même, mais s'il y a eu infiltration d'eau et que là, ça a dégénéré, ben des gens qui ont eu des mauvaises surprises depuis les dernières semaines, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un nouveau phénomène, mais il faut pas faire inspecter après, c'est avant que ça se fait. Donc ça, on rappelle l'importance tant pour l'acheteur que le vendeur, parce que le vendeur s'expose moins à un retour par la suite. Donc, si le vendeur accepte une promesse d'achat dont les gens font inspecter sa propriété, ben, faut pas avoir peur de ça. C'est simplement une démarche diligente qui fait en sorte que tout le monde est protégé et que les acheteurs achètent en connaissance de cause.
Maintenant, maintenant, quand on regarde ça, une inspection a posteriori de l'acquisition, on a un problème. On pourra pas faire annuler cette vente-là, là.
Non. Non, il n'y a aucune possibilité. Et c'est clair que si vous voulez intenter un recours contre les vendeurs, bien, c'est sûr qu'en arrivant devant un juge puis en disant, ben, j'ai pas fait inspecter avant, on part avec quelques prises, là, tu sais. C'est pas de cette manière-là qu'il faut faire si on veut être protégé à long terme dans l'achat de notre propriété. Ça, okay. C'est clair.
Bon, ben, parlons-en, là, maintenant de la garantie légale. Qu'est-ce que c'est?
Oui. La garantie légale, en fait, ça, c'est une garantie qui vous protège contre les vices de la propriété et même des vices, en fait, que le propriétaire pourrait ne pas connaître. Donc, c'est une garantie légale qui est offerte sur la plupart des propriétés. Je vous dirais, Jean-Luc, dans les cas où il n'y a pas de garantie légale, c'est surtout les cas de succession. Par exemple, les gens n'ont jamais habité la maison. Donc, on hérite d'une propriété, on la connaît pas, on peut pas offrir une garantie. En tout cas, la plupart des gens... Nous, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas habité la maison ne veut pas offrir une garantie légale. Il y a aussi dans le cas des immeubles à logement, des immeubles à revenus, où le propriétaire, encore là, n'a jamais habité sur place, préfère ne pas offrir cette garantie-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vendeur, là, si vous décidez, ben moi, je vais profiter du marché, là, ma maison, je l'habite depuis 25 ans, mais je ne veux pas offrir de garantie légale. Mais attention, parce qu'il y a quand même des nuances. S'il y a des informations que vous aviez avant, que vous avez omis de mentionner ou vous avez caché ou peu importe, là, il y a eu des travaux ou des infiltrations passées que vous n'avez pas déclarées, ben c'est pas parce que vous vendez sans garantie légale que vous vous exposez pas à un retour de la part des acheteurs. Donc, si on découvre par la suite qu'il y a eu des travaux, exemple, dans un mur, on ouvre les murs, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été corrigé dans le passé, ça n'a jamais été dévoilé, et là, il y a encore un problème, ben, à ce moment-là, le vendeur s'expose quand même à des recours. Donc, il faut faire très attention avec la garantie légale.
Est-ce que vous avez une obligation, ça c'est curieux, parce que ça aussi c'est un phénomène qui est relativement récent, plusieurs offrants, une vente avec des offres multiples, et l'agent d'immeuble ou le vendeur, ou par son intermédiaire de l'agent d'immeuble, retient les propositions, je rencontre toutes les qualités nécessaires pour l'acquisition, mais ils disent « Oh, on va ouvrir ça juste lundi prochain, et ça sera au plus offrant ». Donc, ça fait un peu curieux. Si je donne-moi toutes les réponses comme acheteur au vendeur. Je remplis toutes ces conditions. J'ai pas besoin de financement. J'ai pas besoin de ci. J'ai pas besoin de ça. Mais mon offre, ben, elle va passer dans une surenchère potentielle parce qu'en fin de semaine, il y a une visite libre où il y a d'autres visiteurs.
Bien, ça, il y a différentes façons de le voir, Jean-Luc, parce qu'un acheteur peut toujours faire une promesse d'achat, même si le délai est mentionné lundi, exemple. Bon, les promesses seront répondues lundi. Ça, c'est dans le but, justement, que les gens aient le temps de visiter, parce que sinon, imaginez la frustration encore plus élevée des acheteurs. Moi, j'ai affaire à des acheteurs frustrés chaque semaine. Là. Je vous le dis, là, des gens qui peuvent pas visiter. Les plages horaires sont déjà complètes après quelques heures de mise en ligne. Donc, c'est clair que les vendeurs vont laisser un petit peu plus de temps, des fois 2-3 jours, pour laisser le temps aux acheteurs de visiter la propriété. Et c'est pour ça qu'ils veulent donner ce délai-là pour avoir toutes les promesses d'achat en même temps. Ceci étant dit, rien n'empêche un acheteur, avec son courtier ou tout seul, peu importe, là, de faire une offre le samedi, et ce sera au vendeur de décider. Ça nous est déjà arrivé dans certains cas de dire, ben écoutez, les promesses d'achat seront répondues lundi à la demande des vendeurs. Par contre, on en a reçu une le samedi. Ben moi, j'ai l'obligation comme courtier, je peux pas dire à la personne ou à l'autre courtier, ben écoute, je présenterai pas ta proposition, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, à partir du moment où il y a une promesse d'achat signée par un acheteur, nous avons le devoir de la présenter au vendeur et c'est le vendeur qui décide par la suite. Est-ce que j'attends lundi ou finalement j'accepte cette proposition-là? Alors, il y a différentes nuances,
non, mais
oui,
c'est
vrai qu'on...
Mais c'est honnêtement, là, c'est que c'est une porte ouverte à la surenchère.
C'est clair qu'il y aura plus d'acheteurs qui vont faire des offres, effectivement, si il y a 2 jours de visite et que les promesses d'achat sont présentées, en fait, sont répondues le lundi, ben à ce moment-là, ça ouvre la porte à plus d'offres, effectivement.
Mais,
par contre...
Mais l'offre que vous me présentez sur les sites, c'est 100 000 $ puis c'est ici, puis je remplisse toutes les conditions. Moi, je dis, OK, je vous donne 100 000. Tu dis, regarde, merci beaucoup, je vais la présenter, mais on a des visites samedi puis dimanche, fait que lundi, on va ouvrir. Ben là, vous savez très bien que ça part à 100 000. Fait que là, moi, l'autre, il dit 105. Alors que je remplis toutes les conditions, je ne peux pas l'avoir. Puis j'ai répondu à tous les points du vendeur.
Oui, ben le vendeur, vous savez, quand on affiche une propriété sur Centris, il n'y a pas l'obligation non plus de vendre la propriété. Exemple, s'il y avait juste une offre. Je vous présente ça parce que ça arrive des fois des gens là qui ont voulu essayer de mettre un prix plus haut, de profiter du marché, puis des vendeurs qui disent « ben moi, je veux pas vendre en bas de tel prix » et finalement qui espèrent de la surenchère qui arrive pas toujours. Ceci étant dit, là, ça arrive pas à chaque fois, mais le vendeur n'est pas obligé, n'a pas d'obligation d'accepter une promesse d'achat, mais c'est écrit dans le Centris que c'est pas une un engagement à répondre à une promesse d'achat là, si toutes les conditions sont répondues. Mais moi, je comprends la frustration parce que je la vois des deux côtés.
Bien sûr, bien
je travaille
sûr.
Autant avec des acheteurs qu'avec des vendeurs.
Bien donc, sûr.
Ben oui, dernière alors question, c'est clair que c'est difficile.
Dernière question, parce que les gens ne l'ignorent peut-être pas ou pourraient vouloir le cacher. S'il y a eu un décès violent dans la maison et ou un suicide, il faut le dévoiler, il faut le dire, sinon ça peut être... peu importe garantie légale, pas garantie légale, ça peut être l'occasion d'un bris de contrat, d'un bris de vente.
Absolument. Et ça, c'est très grave de cacher ces informations-là. C'est dans la déclaration du vendeur, il faut le mentionner. Et dites-vous que si vous ne le mentionnez pas, il y a un voisin qui va le mentionner. Il y a des façons de vérifier. Et si l'acheteur apprend ça par la suite, posez-vous la question, est-ce que les acheteurs auraient quand même acheté cette propriété-là en sachant qu'il y a eu une mort violente dans la maison? Donc, la réponse est que ça élimine énormément d'acheteurs. En ce moment, l'effet est moins grand. L'effet de la baisse de prix à cause de ça, on le voit moins, étant donné le marché actuel. Mais quand même, un suicide ou une mort violente, il y a des gens qui ont des croyances et qui veulent pas acheter ce genre de propriété-là puis qui veulent pas vivre dedans. Donc, c'est la déclaration obligatoire. Et si vous n'êtes pas certain, est-ce que je devrais déclarer telle ou telle chose? Ben, si vous avez un doute, là, la bonne chose à faire, c'est de déclarer. De cette façon-là, vous ne ferez jamais avoir.
Merci beaucoup, Mélanie Bergeron, courtière en immobilier. Si vous trouvez quelque chose aux Îles-de-la-Madeleine, vous m'en parlez. Il n'y en a pas, je le sais.
Je vous ferai signe.
Bye-bye, Mélanie, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. Je l'appelle Mélanie parce que c'est la Mélanie Bergeron qui faisait les informations à TVA et à LCN. Et donc, je l'ai connue à ce moment-là, c'est pour ça. Voilà, on s'arrête pour une pause.